bienvenue et merci de nous choisir pour vous informer sur l'actualité économique du pays et d'ailleurs. Agathe Mpona Elema au micro, Sylvain Matundu à la mise en onde, Berry Franklin Louchaka, toujours fidèle pour nous fournir les nouvelles.
Les petites et moyennes entreprises dans la lutte contre la pauvreté et la consolidation de la paix à Bounia, c'est le thème d'un atelier de formation qui a démarré ce mardi à Bounia dans la province orientale. Nous en parlons dans deux minutes avec Delvin Waïsala. Et puis, l'ultimatum lancé par la Direction Générale des Impôts pour la vente des plaques minéralogiques d'immatriculation a expiré depuis lundi. Sur le terrain, les regroupements forcés n'ont pas encore commencé, mais de plus en plus de personnes ne sont toujours pas encore entrées en possession de leurs plaques, même après paiement. C'est l'éco-reportage que nous vous proposons à suivre dans la seconde partie de cette émission.
Toujours dans la seconde partie de cette émission, nous recevrons François Nzekouye, directeur général d'un cabinet d'études minières et environnementales en RDC. Il est aussi expert économiste pour le compte du Centre du commerce international. Nouvelle pénurie de ciment à Kalemie après 48 heures d'approvisionnement.
Les 280 tonnes de ciment importées la semaine dernière de la Tanzanie par un opérateur économique se sont vendues comme des petits pains. L'unique importateur de la ville dit attendre la prochaine livraison des 300 tonnes prévues dans deux semaines. D'ici là, beaucoup de maîtres de chantier artisans vont encore devoir se tourner les pouces. La solution de cette pénurie, selon plusieurs commerçants, c'est la remise en service de la centrale hydroélectrique de Bendera.
Le maïs et le haricot interdits de vente en cette période culturelle à Dilolo.
Nous sommes au Katanga et c'est le chef de cité de Dilolo qui fait cette annonce aujourd'hui. Selon lui, ne doit vendre ses produits que celui qui déclare plus de 20 tonnes au service de l'agriculture du territoire. Il précise que la campagne agricole n'est pas encore lancée sur l'étendue de la province. Entre-temps, le maïs est devenu rare sur le marché de Dilolo et le prix a augmenté de 750 francs congolais le petit seau. Il est passé à 1500 francs ces deux derniers jours.
Au Kasaï occidental, cette fois si la vente de la chaux naturelle donne du boulot à quelques vulnérables.
C'est grâce à l'ONG Association des Veuves et Orphelins et Femmes Instables d'Afrique, AVOFIA en sigle. 6 jeunes désœuvrés et 10 veuves du groupement de Benamoussoua à 35 km de Kananga dans le territoire de Dibaya sont employés par cette ONG. Selon Modeste Mpoui Chikem, coordonnateur de l'ONG AVOFIA, la chaux se vend à $30 pour un sac de 25 kg. Celui de 15 kg coûte $20. Il ajoute que sa structure envisage dans les jours à venir produire localement de la peinture.
Cap vers l'Équateur, 63 députés provinciaux désavouent les membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale.
Ce sont les députés de toutes tendances politiques confondues. Dans une pétition publiée hier, les signataires accusent le bureau de multiples détournements des finances de l'Assemblée provinciale évaluées à près de $6,100 américains. Ils reprochent également au président Edmond Mondombo et à ses collaborateurs l'incapacité de la conduite des activités de leur institution.
Vers la résolution des conflits entre les Mining Processing Congo et les exploitants artisanaux des minerais de Walikale.
Nous sommes à plus de 200 km à l'ouest de Goma, au nord Kivu. La semaine dernière, deux accords ont été signés entre les deux parties à Walikale grâce à la médiation d'une délégation du ministère des Mines venue de Kinshasa et qui séjourne depuis cette période dans la province. Selon Prince Kiyangi, coordonnateur du bureau d'études pour le développement de Walikale, l'objectif est de revoir les limites entre les carrés miniers reconnus à la société minière MPC et la zone à exploitation.
La nouvelle économique au bout du fil.
Delvin Waïsala, vous nous suivez depuis Bounia. Les petites et moyennes entreprises dans la lutte contre la pauvreté et la consolidation de la paix à Bounia, c'est le thème d'un atelier de formation qui a démarré ce mardi à Bounia et vous êtes déjà au bout du fil. Bonsoir Delvin.
Bonsoir Agathe. Quel est... Le coordonnateur du centre d'études en organisation a déclaré que l'objectif est de doter ses étudiants de certaines connaissances capables d'éveiller leur esprit d'entrepreneuriat dans une situation post-conflit où les emplois existants n'arrivent pas à observer la masse des chômeurs. Il s'agit en effet d'une formation de ces étudiants en management. Avec ces connaissances, cette ONG espère que ces derniers seront en mesure de créer quelques petites et moyennes entreprises.
Et quelles sont les différentes matières économiques développées tout au long de cette formation?
Agathe, Parmi les différentes matières développées au cours de cette formation, nous pouvons citer notamment l'apport des PME dans la lutte contre la pauvreté et leur contribution dans les processus de consolidation de la paix en Ituri. L'expérience des guichets d'économie locale du Sud Kivu dans la lutte contre la pauvreté par la création et le développement des micro et petites entreprises.
Concrètement, dites-nous, comment un atelier de formation peut directement amener ses étudiants à la création d'emplois d'Elvin?
Concrètement, on leur apprend comment monter une petite affaire avec une somme donnée, ce qui est développé dans ce sous-thème du guichet d'économie locale. Par exemple, ces étudiants apprennent avec seulement une somme de $20, ils peuvent notamment monter un poulailler. Ils apprennent également comment ils peuvent se trouver dans une association pour bénéficier de l'appui de certains partenaires. Et ainsi, à travailler ensemble, ils contribuent à la consolidation de la paix.
Toutes ces matières sont-elles dispensées par le centre d'études en organisation?
Agathe, pas nécessairement. Parmi les intervenants, au compte des agents de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, et quelques enseignants des institutions universitaires de Bunia et de Kisangani. Il faut souligner que cet atelier bénéficie de l'appui technique et financier du Programme national pour le développement PNUD en sigle.
Merci Delvin pour toutes ces informations.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka.
En international, tout de suite, l'Ouganda et la Banque mondiale signent deux accords pour le secteur des transports et de l'agriculture.
Le montant global est de $228 millions. Les projets routiers bénéficieront d'une enveloppe de $198 millions, dont une partie sera destinée à améliorer le réseau reliant l'Ouganda au sud et à la République démocratique du Congo au nord-est. Les $30 millions restants iront au programme de productivité agricole d'Afrique de l'Est dans ce pays, Agathe.
Éco-reportage. Tout le monde s'attendait au bouclage des véhicules au lendemain de l'expiration de l'ultimatum lancé par la DGI sur la vente des plaques minéralogiques. Mais il n'en est rien. Au contraire, des voix s'élèvent pour crier haut et fort qu'elles attendent depuis environ un mois pour obtenir ces plaques.
Non, on va bander. Si paré balobaki lundi le 15 les araki dato ba pesaki mais to monika ba quantité donc to somi déjà mena me limité toujours monaka ba to zo pesaka mbongo mais ba flaka ngwe zo bimate ka on va promettre une chose à Renault de passer après quelques jours.
D'autres, par contre, sans inquiétude quelconque, affirment qu'ils attendent calmement réunir la somme de $60 américains pour l'achat de la plaque, mais ne sont tout de même pas chauds quant à cela. Pendant ce temps, pour protester contre ce changement des plaques minéralogiques, le parti lumumbiste progressiste a adressé une lettre à la DGI dans laquelle il fait part des irrégularités constatées dans l'opération menée par ce service. Voici les explications du secrétaire général adjoint du parti lumumbiste progressiste.
Dans la loi numéro 78/022 du 30 août 78, dans son article 59.6, il est dit que un véhicule déjà immatriculé ne peut pas être rématriculé. Donc, on immatricule que les véhicules neufs ou les véhicules sont importés et qui viennent en République démocratique du Congo. Les autres véhicules ne peuvent pas être rématriculés. Le deuxième problème qui se pose, c'est les taxes qui ont été créées parallèlement à cette campagne-là. Si vous allez à la DGI aujourd'hui, vous allez voir qu'on va vous demander $20 pour le défaut d'assurance pour les véhicules qui n'ont pas d'assurance, ce qui n'est pas déjà des compétences de la DGI. $10 pour les frais bancaires. Même si vous avez 10 véhicules, on va vous demander $10 par véhicule. Ça, c'est de l'arnaque. Et puis, on vous demande en plus de payer $5 pour les frais d'archivage. Vous voyez, monsieur, ça c'est de l'arnaque. La population est déjà mériterie comme ça. On ne peut pas continuer à la faire souffrir.
La DGI promet de se prononcer sur cette question à partir de ce jeudi.
L'entretien de ce soir.
L'entretien de ce soir, c'est avec François Nzekouye, directeur d'un cabinet d'études minières et environnementales. Il est expert en économie pour le compte du Centre du commerce international et il participe à un atelier à Kinshasa qui a débuté ce matin pour l'amélioration de la gestion économique des ressources minières en RDC. Il s'entretient avec Berry Franklin Loutchaka.
Quel est le sens de ces ateliers?
Le sens de ces ateliers est d'abord d'avoir une large concertation avec tous les acteurs du secteur minier, tant public que privé et la société civile, pour pouvoir avoir la juste mesure des problèmes qui se posent dans le secteur minier et les propositions des solutions quant à ceux. Parce que nous croyons que le meilleur développement ne peut se faire que par les propres acteurs, les mêmes acteurs. Les personnes qui sont dans le secteur minier connaissent leurs problèmes et ils connaissent les solutions à appliquer au secteur minier pour que le secteur minier soit le plus efficient et qu'il puisse amener à la République démocratique du Congo la richesse que la RDC attend de ce secteur. Ce sont des ateliers qui ont une vision d'applicabilité immédiate parce que beaucoup d'ateliers ont été faits dans ces pays et les recommandations sont restées non appliquées et gardées dans des tiroirs. Par contre, l'optique de ces ateliers, c'est de dire nous prenons 3, 4, 5 recommandations et dès le mois de juin, nous commençons à les appliquer pendant une durée de 3 ans.
C'est quelles options que vous allez prendre, par exemple, qui vont être mises en pratique?
Première chose, c'est la vulgarisation du code et règlement minier. Vous avez entendu, beaucoup d'intervenants disent que le code minier existe, mais il n'est pas connu. Et une des applications à cette vulgarisation, c'est d'abord l'imprimer à un coût qui soit accessible à tout le monde. Et des deux, on va arriver à faire des livrets qui reprennent certaines matières concernées par chaque catégorie des acteurs dans le secteur minier. De sorte que un agent qui n'est occupé que par un aspect déterminé du code minier puisse avoir tous les éléments les concernant au lieu d'avoir ces deux gros volumes qui sont vraiment difficiles à manipuler. Voilà un peu, ça c'est une des premières mesures qui peut être d'application immédiate. La deuxième mesure, c'est une mesure de formation. Troisième chose, ce sont les cartes géologiques adaptées au secteur minier.
Mais dans tout ça se pose aussi le problème d'instruction ou d'éducation. L'orpailleur qui est par exemple en province orientale ou le petit creuseur de diamants qui est à Tchikapa, est-ce qu'ils peuvent se sentir bénéficiaires de vos ateliers ici à Kinshasa?
On s'est dit que nous allons organiser les exploitants artisanaux. D'abord, on va discuter avec les cadastres miniers de manière possible pour qu'ils puissent avoir des zones d'exploitation artisanale exclusives qui soient conformes à la technicité des artisanaux. Quand ils reviennent d'une exploitation artisanale, ils ont un peu d'argent, ils vont boire un peu de l'autoco, ils prennent une fille à côté. Donc, ils n'ont aucune notion de la gestion durable de leur activité pour pouvoir penser au lendemain. Ce sont des personnes qui vivent au jour le jour.
Voilà. Et les exploitants artisanaux, d'une manière générale, combien de temps ça prendra pour que vous puissiez finalement mettre à leur disposition les textes?
La mise en disponibilité des textes ne peut pas prendre plus de 6 mois. Parce qu'en fait, les textes liés à l'artisan doivent être écrits non seulement en français, mais dans les langues vernaculaires. Parce que beaucoup de nos concitoyens ne connaissent pas le français. Donc, la traduction va se faire. D'abord, comme j'ai dit, on va faire les livrets en français.
Et ça va traîner quand même.
Non, je vous dis qu'en 6 mois, on est en mesure de mettre des textes qui permettent à chaque partie prenante au secteur minier d'être à disposition des textes qui les concernent. Dans nos écoles et universités, il y a des personnes qui sont spécialisées à cela. D'autant plus, comme je vous dis encore, ça va être des textes restreints. Ce sera des textes de 20-30 pages qui ne prendront pas beaucoup de temps pour être traduits. Ce n'est pas tous les codes et règlements miniers qui vont être traduits en langue, mais des textes résumés, sectoriels, qui puissent permettre à ce que chaque intervenant comprenne ce dont il a besoin, et très particulièrement pour les artisans miniers, ils auront donc les textes qui les régissent et organisent leur fonctionnement au niveau des expressions artisanales que nous espérons les ministres des Mines vont mettre à leur disposition de façon incessante.
Merci beaucoup, M. François Nzekouye.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir accordé la parole à la Radio Nationale Okapi.
Merci, François Nzekouye. Merci, Berry Franklin Louchaka. C'est avec vous que se clôture Écho d'économie de ce soir. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la Radio Okapi.